Bonjour à tous, bienvenue à votre... Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay en compagnie de Mélina Lopestado.
Bonjour.
Et de François Genet.
Bonjour.
Comme chaque semaine.
Ben oui.
Et bonjour chers auditeurs, merci d'être avec nous encore une fois pour un Cinébrunch ou pour une première fois. Cinébrunch, je le rappelle, est votre émission, votre magazine radiophonique sur le cinéma où on va parler d'un paquet de trucs hein, qui concernent le cinéma.
Oui, c'est très bien expliqué
oui.
Ça pour vrai.
Donc on les critique, des débats, des sujets, des discussions, c'est fort agréable. Et ben justement, en fait, bienvenue à ce dernier épisode de novembre. Hein. Et qui dit novembre dit décembre.
Oui.
Hein? Oh, ben,
bientôt.
Ben, bientôt. Ben, tout à fait.
Oui.
Qui dit novembre dit novembre aussi, mais bon, ça c'est moi. Hein.
Oui, on aurait dû vivre dans le passé.
Oui.
Donc, en fait, juste à temps pour décembre, cette semaine, on critique les films La Reine des Neiges 2.
Oh oui.
On se demande vraiment pourquoi c'est François qui était voir ce film.
Oh.
Et de mon côté, j'ai vu Alice et la mère. Et Mélina, t'as vu Charlie? Et c'est drôle de dame.
Exactement.
Je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas. Voilà. Donc, on va parler de tout ça un peu plus tard dans l'émission, mais avant, quelques nouvelles, François.
Oh, écoute, bien joué, Jim. Je m'attendais pas à ce que ce soit moi qui commence,
bon?
Mais pas grave. Mais on a parlé souvent de Netflix, hein, et je voulais encore parler de Netflix. Je me suis dit, Colin, il y a tellement de choses qui bouillonnent alentour de tout ça.
Oui, je sens que tu viens de voler ma nouvelle, oui.
Oui, oui, mais Netflix veut exploiter un vieux cinéma
ben
new-yorkais.
Oui, c'était ma nouvelle, oui.
Ouh, c'était ta nouvelle, mon
Dieu. Non, mais c'est bon, vas-y.
Pas sérieux. Écoute,
oui, tout à fait. Mais parce qu'en fait, c'est que...
On parlait de ça un peu la semaine passée,
oui.
les gros joueurs qui vont pouvoir avoir des cinémas.
Tout à fait.
C'est drôle parce que Netflix, bon, en tout cas, je peux pas dire que c'est un gros cinéma non plus, une salle, ça va.
Non, ben exactement, c'est une salle, mais c'est drôle aussi parce que les gens disent « Ah, l'avenir, c'est le streaming, les gens vont moins en moins dans le cinéma, c'est ce que les gens... » veulent dire, en fait, un petit peu, c'est ce qu'on ressent.
C'est ce qu'on reproche à Netflix aussi au niveau des prix.
Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est pas nécessairement vrai, parce que quand on regarde les box-office, par exemple, Frozen 2 a fracassé,
la glace
du box-office. Ouais, tous les jeux, mauvais jeux de mots ont été faits, je pense, à ce niveau-là. Mais donc, il y a encore des gens, évidemment, qui se déplacent en cinéma.
Oui.
Mais il y a quand même cette tendance-là de dire, on s'en va vers le streaming. Et là, de voir que quelqu'un du streaming, un gros joueur comme ça, se déplace et fait l'inverse, le chemin inverse, c'est quand même assez drôle.
Ouais.
Et ça nous fait poser plusieurs questions. On avait parlé il y a ultra longtemps quand même, pas si longtemps que ça quand même, mm-hmm. mais quand même un petit peu, comme quoi que pour gagner des Oscars, fallait être en salle de cinéma pour l'instant.
Oui.
Mm-hmm.
Donc là, est-ce que ça serait une des façons de pouvoir être
Je
en nomination pour certains prix?
Il faut que ce soit dans le comté de... en Californie, en fait. Il me semble qu'il y a quelque chose par rapport à ça.
Peut-être.
Donc ça n'aurait pas rapport de faire ça pour ça, mais...
Mais je sais qu'ils l'ont utilisé déjà la salle au mois de novembre.
Oui, ils l'ont fait pour des
projections.
Spéciale.
Ouais.
Puis là, effectivement, là, ils vont continuer à faire des événements. Ils vont peut-être pas être là. Je pense qu'ils ont fait un deal peut-être plus à long terme au niveau ce cinéma-là, mais ils vont peut-être pas être là.
Non, je pense que ça va être événementiel.
Ouvert. Ça va plus être événementiel. Peut-être qu'il va y avoir des. Mettons une semaine là, ça va être ouvert, ça va refermer.
Ça aurait été fun de pouvoir aller là, choisir ton film sur Netflix et l'écouter sur grand écran.
Ça aurait été vraiment très bien.
Peut-être un jour.
Oui, on sait jamais. Ben là, peut-être qu'il y a des gens de Netflix qui nous écoutent.
Sûrement.
Et qui entendent la bonne idée. Mais voilà. Donc, je trouvais ça intéressant comme nouvelle.
Oui, merci François. C'est une excellente nouvelle.
C'est
que t'as tri. Hein.
Tout à fait.
J'ai
toujours des bonnes idées. Ouais.
Oui. Voleur.
Bon,
donc, voilà. Merci, François. Mélina?
Oui, ben moi, je vous parle en fait de la réalisatrice du film que je vais critiquer tantôt, donc Charlie's Angel, la réalisatrice Elizabeth Banks, hein, qui a réagi sur Twitter parce qu'il faut savoir que le premier week-end d'ouverture du film n'a pas très bien été. Donc, on parle d'un 8,6 millions. Au box-office pour un film qui en a quand même coûté 48 à faire.
On est assez loin de Marvel.
De
Frozen 2.
Oui,
aussi, je tiens à repluguer Frozen 2.
Oui.
Fait que, c'est ça, c'est sorti la même fin de semaine, je crois.
Oui, je pense que ça a grugé
ça
un
pas
petit
aidé.
Peu.
Est-ce que c'est le même créneau? Oui, pensez-vous?
Je pense pas, mais c'est, ça reste qu'elle réagit. C'est ce qui est le fun, en fait, maintenant, c'est que les gens, ils peuvent réagir sur Twitter ou Instagram, puis on a un accès plus direct à eux.
Je sais pas si c'est tant le fun, mais en tout cas, oui.
Mais elle a dit, en fait, eh bien, si votre film va flopper, assurez-vous que votre nom apparaisse dedans au moins 4 fois. Je suis fière de Charlie's Angel et je suis heureuse que ce film soit sorti dans le monde. Pourquoi elle dit que, assurez-vous que votre nom soit là 4 fois? Parce qu'elle a réalisé, scénarisé, produit et elle joue un rôle dans le film.
Oh,
donc,
quand même. Bon.
Voilà.
En fait, c'était un peu... En tout cas, oui, ça peut être bon ou pas d'avoir son nom
ben
aussi.
C'est ça. Je pense que c'est un peu un sarcasme aussi, okay, en même temps, sa façon, mais voilà, c'est des choses qui arrivent.
Mais en fait, ça veut pas dire que le film va pas surprendre dans les prochains week-ends aussi, parce qu'on s'entend que c'est Thanksgiving aux États-Unis.
Ben oui. Donc, on va encourager les films qui réussissent moins.
Ben, c'est ça aussi. Donc, non, mais des fois, il y a beaucoup plus de monde qui sortent. Tu sais, aussi, c'est pour ça que Frozen est sorti un peu avant Thanksgiving aux États-Unis, pour être capable d'avoir cette lancée-là. Donc, peut-être que ça va aider d'autres films aussi. Les gens vont plus sortir. Les gens vont déjà avoir vu Frozen. Fait que peut-être qu'il n'y a pas une autre fin de semaine, ils vont aller voir un autre film.
On va en parler tantôt.
T'es un optimiste, hein, François.
Ah, je sais, je sais.
On connaît pour ça, oui. On va parler tantôt, mais oui, c'est ça. Puis d'ailleurs, moi, c'est un peu curieux, parce que je suis dans l'impression que ça existait déjà, Charlie's Angel.
Mais donc, oui, ça
c'est une
déjà.
Série, j'imagine.
C'est une série, ça a été une suite de films en 2000, début 2000.
Juste une nouvelle version.
Oui, voilà, on sort ça
dans
le monde.
Bon, on va parler de ça un peu plus tard. Et, excellent, mais de mon côté, comme ma nouvelle principale a été utilisée, je vais en profiter pour vous donner quelques nouvelles de moins grand intérêt. Je vais vous parler de Robert Redford, qui demande aux Américains de voter contre Trump, malgré la ressemblance importante de leurs deux toupets respectifs, hein, parce que quand même, il y a définitivement des affinités
quelque chose,
là, au niveau du look. Il dit, en fait, qu'il reste 11 mois avant l'élection présidentielle, 11 mois avant que nous ayons l'occasion unique, je suis en train de citer, de redresser la barre et d'éviter le désastre qui est devant nous. Réemployons-nous à voter pour la vérité, la personnalité et l'intégrité de nos élus, dit-il, dans la volonté d'en finir avec cette espèce de dictateur et de sa monarchie déguisée. Donc, il ne marche pas.
Quand tu fais des signes de quote avec tes mains,
non, c'est pour
on ne les voit pas. Okay.
Non, c'est pour vous. Non,
c'est pour ça. Mais je faisais un petit peu la vidéo description.
Ben, tu fais bien.
Hein, c'est ça, voilà. Les petits guillemets qui sortent comme ça.
Hein? Donc, quoi de plus, hein? Quoi de plus? On voit que ce n'était pas ma nouvelle principale. Et, écoute, j'en profite pour vous dire un mot sur, encore une fois, dans les dossiers des agressions sexuelles et compagnie. Cette fois, ce n'est pas Luc Besson qui est en cause, mais plutôt Christophe Ruggia, qui, il y a eu une plainte officielle qui a été déposée contre lui de la part de l'artiste, de l'actrice Adèle Haenel.
Oui, qu'on en avait parlé il y a quelques semaines.
Ben là, c'est officiel, elle a déposé sa plainte donc, pour des attouchements et du harcèlement sexuel commis quand elle était adolescente sur un film d'ailleurs qui l'a fait connaître.
Oui, exactement. Oh, donc, qui lui dit qu'il l'a mis au monde, mais au final, elle dit qu'elle m'a détruit.
Oui,
ce film-là m'a détruit.
C'est ça, faire attention avec ses mots. Donc, c'est ça, j'avais-tu autre chose? Bon, Xavier Dolan honoré par la France et André Lachapelle qui est décédé, on n'en a pas parlé la semaine dernière.
C'est vrai.
Écoutez, ça vaudrait un bloc d'émission complet. Honnêtement, il y a plein de choses à dire là-dessus. André Lachapelle qui, était dans le film Il pleut des oiseaux, il y a peu de temps. À la maison de cinéma, le film n'est jamais quitté la salle, mais notez que plusieurs salles de cinéma ont ramené le film. Probablement l'hommage.
Pour faire un hommage.
Exactement. Et probablement aussi pour faire un peu d'argent. Donc, triste fin pour... je sais, je suis un peu cynique.
Oui.
Triste fin pour...
triste fin.
Bon, non, quand même. Honorable vie, en tout cas. Pour André Lachapelle, qui d'ailleurs était très, très, très habile dans ce dernier rôle
Tout
cinéma.
À fait.
Donc voilà, c'est tout pour les nouvelles.
Thank you.
on se demandait jusqu'où on pouvait aller avec ce jingle.
Oui,
et
c'est ça.
On a la preuve que ça va très loin.
Ça va très loin. On l'a pas écouté, puis on est surpris à chaque fois de savoir à quel point le jingle continue.
Oui,
tout à fait. C'est assez magique comme moment.
Aussi magique que la magie dans les yeux des enfants qui sont allés voir, comme toi, François, comme toi qui es retourné en enfance,
oui.
En ce jour de novembre où tu t'es préparé tranquillement pour le temps des fêtes, en ce jour où tu t'es dit « je marche sous la neige, je m'en vais au cinéma, je glisse sur une plaque de glace ou sur une petite affiche là, sur le trottoir qui dit de suivre les murales. »
Les murales, oui.
Je glisse jusqu'à qu'à la maison du cinéma en bas de la côte King pour entrer et prendre un billet pour le film Frozen.
Mon doux, m'as-tu espionné?
Frozen 2. presque. Hein?
Oui, hein, tu me regardais du haut de la fenêtre.
Donc, on m'a mis au défi de gagner du temps.
non, mais en fait, effectivement, je suis allé dans l'après-midi, un dimanche après-midi. Ah. Donc,
il neigeait-tu au moins?
C'était... Non.
Il neigeait pas?
Non, mais il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants et vu l'intensité de toute l'énergie des enfants, peut-être qu'ils s'apprêtaient à neiger. Mais
d'accord. C'était plus de la grêle.
Il y avait une frénésie quand même. Okay. Tout à fait. Il y avait beaucoup de personnes. Tu sais, des fois, je vais voir des films puis je suis tout seul. Là, mon doux, il y avait des gens. J'étais tout surpris.
C'est un sujet intéressant peut-être pour la fin de la demi-heure. Si on a encore un peu de temps, on pourrait jaser de ça. C'est quoi aller voir des films quand il y a plein d'enfants, selon le public? Ça peut être très intéressant.
Tout à fait.
Mais d'ici là, François, je t'encourage à nous parler du film Frozen 2 tous nos jeunes auditeurs attendent avec impatience.
Non, mais moi aussi, en fait, j'avais quand même vu le Frozen 1. Hein? Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez vu La Reine des Neiges, le premier opus?
Non, mais j'ai failli écouter un bout avec une jeune enfant. Mais elle était très occupée à faire plein de choses en même temps, donc moi quand je suis pas concentré dans un film, j'arrive pas là. C'est tout
pas,
ou rien. Hein?
C'est ça aussi quand même un grand film. Mais donc dans le fond, je vais dire un petit peu le synopsis rapidement. Dans le fond, Elsa, qui est le personnage principal, je le sais, Jim, que tu connais exactement qui elle est.
Moi, absolument. Je sais qu'il y a Elsa et Anna, parce que je me souviens d'avoir donné des poupées de ça à ma nièce à Noël.
C'était écrit sur le... Oui, tout à fait. Il y a tout un
problème. C'est la même nièce avec qui j'ai...
on fait des liens. Voilà. Alors, dans le fond, pourquoi Elsa est née avec ses pouvoirs magiques? Hein, parce que pour les auditeurs qui n'ont pas vu, elle est capable de faire de la glace. Et bon, elle a des pouvoirs magiques avec la glace.
C'est pour ça que ça s'appelle Frozen.
Reine des neiges, tout est là-dedans. Voilà. Alors la réponse, l'appel et menace son royaume. Avec Anna, Christophe, Olaf et Sven, des noms complètement inconnus pour les gens qui n'ont pas vu le premier opus, elle entreprend un grand voyage qui s'avère dangereux. Dans La Reine des Neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs étaient trop grands peut-être pour le monde, mais dans La Reine des Neiges 2, elle n'a qu'à souhaiter qu'ils soient assez puissants.
Je sens qu'il y a un mariage dans ce film, je ne sais pas pourquoi je le sens.
Je sais pas pourquoi.
Non.
Alors, va voir le film pour savoir.
Oui.
Peut-être, qui sait. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes voix qui reviennent, qui étaient là dans le premier opus, qui reviennent.
Ça aurait été décevant que ce soit pas le cas.
Ça aurait été décevant.
Ça date pas
et même
si longtemps.
Aussi, ça date quand même 6 ans, 2013.
Ah ouais, quand même.
Hein, ça passe plus vite. Je sais, on a tous essayé de let it go, mais on n'a pas réussi. C'est quand même, ça nous revient toujours les deux pieds sur terre. Et donc, il y a eu quand même un court-métrage aussi de fait. Il y a eu plusieurs trucs qui ont...
Il y a eu un truc avec plein de princesses.
Il y a eu des affaires qui ont essayé de reprendre ça. Mais quand même, c'est le deuxième opus, un vrai film. Et donc, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Donc, les voix anglaises, c'est Idina Menzel, Christian Bale, Josh Gad, Jonathan Groff. Et en français, on retrouve les mêmes personnes. Donc, Marc Labrèche qui joue Olaf. C'est quand même assez drôle d'entendre Marc Labrèche. Véronique Claveau, Gabriel Lessard, Aurélie Morgan. Donc, on retrouve les mêmes voix, autant en français qu'en anglais. Et ça, je trouve ça intéressant aussi que, du moins pour la traduction, c'est suivi. Hein? On ne sait jamais des fois avec les traductions.
Oui, ça s'est vu.
Oui, tout à fait. Même réalisation, Chris Buck et Jennifer Lee. Musique, même duo de musique, Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez.
Et Melina Lopez.
Oui, bien sûr, définitivement.
Tout le monde est parrain.
Non, mais je crois qu'il y a eu une chanson en plus dans Frozen qui a vraiment été un hit. Je me souviens d'avoir vu sur Facebook les gens qui étaient tannés d'entendre leurs enfants chanter la chanson de Frozen.
Non, en 2013? Oui. Let it go? Oui, c'est ça.
Ah, c'est ça la blague que tantôt.
Oui, moi je fais des petites blagues pour les fins connaisseurs.
Non, mais quand on a pas vu le film, on sait pas.
Ben c'est ça. Non, mais Let it go, tout le monde a entendu la chanson.
Je connais Let it be.
Hein? Mais voyons.
Non, let it go, c'est Lennon, hein, c'est ça?
Mais voyons. Let it go, Jim.
En tout cas.
Let it go.
Non, mais c'est ça. C'est la chanson qui, en fait,
c'est la chanson thème.
La chanson du film qui a été vraiment popularisée. Oui, c'est ça. Que les gens adorent.
Non, mais j'ai pas vu le film, donc moi.
Mais moi non plus.
Non, mais tout le monde a entendu.
Mais en fait, non.
Ah ouais, mais quand je fais partie de tout le monde.
Ben voyons.
Mais moi non plus, mais c'est ça. Je viens de comprendre les jokes que François fait depuis tantôt.
Je fais plein de jokes. Alors vous allez réécouter ça.
Quand tu essaies d'expliquer tes jokes, c'est jamais aussi drôle. C'est ce qu'on m'a dit.
Non, non, mais les auditeurs ont compris.
Ah ben, penses-tu?
Voilà. Ben
je
oui.
Sais pas, je pense qu'en ce moment, ils se posent des questions. Mais bon, après. Hein?
Alors, là, je pense que c'est le bon moment pour aller écouter la bande annonce.
Je me demandais qu'on allait y arriver.
De temps d'émotion, en fait. On se revoit de l'autre côté.
Oh.
Qu'est-ce que je ferais sans toi?
Je serai toujours là pour toi. Elsa était un peu bizarre ce soir, non?
Pas plus que d'habitude.
J'entends une voix.
Une voix? Comment ça? Courez vers la falaise!
Je vais m'envoler!
Je suis là!
Oh. J'ai pas entendu Marc Labrèche, on était supposé l'entendre.
Oh, je ne l'ai pas entendu, je crois, bon. dans cette partie-là, mais il fait Olaf, le bonhomme de neige. Oui. Donc, bon, voilà.
Alors, bon, il parle pas.
Non, non, il parle. il chante même.
Okay. Alors, il chante?
Oui, tout à fait. Oh, oui. Bon, là, je sens que vous me bloquez dans ma critique.
Moi, je t'écoute, mais laisse parler François.
Alors, en fait, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés depuis la fin, dans le fond, depuis 2013 et la sortie du premier opus. Il y a eu même une comédie musicale qui s'est faite, Frozen. Il y a eu plein de choses qui est sorti là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant parce que si on regarde les voix en anglais, c'est des voix, beaucoup, pour la plupart, qui font des comédies musicales qui sont sur Broadway. Mm-hmm. Et c'est intéressant de voir que même, en fait, les gens qui font la musique, c'est des gens qui ont fait des hits. Autant, bon, Robert Lopez a fait des choses magnifiques sur Broadway aussi. Donc, c'est une équipe de feu pour de la musique. Mm-hmm. Et on est de retour dans les années d'Aladdin, Roi Lion.
Parce que Disney a toujours été justement réputé pour ça. Là.
Exactement. Il y avait ce genre de film-là. Et à un moment donné, on a un petit peu perdu ça. Ils sont revenus. Bon, il y en a eu un petit peu Moana. Il y a eu d'autres films un petit peu qui sont revenus un petit peu avec
Moana,
cet esprit-là.
Moana, je suis un peu déçu, honnêtement. Ils reprennent la même tune trois fois dans le.
Ouais, bon, c'est ça. J'ai malheureusement pas encore réussi à regarder le film. Mais ça s'en vient. C'est ma to-do list. Mais les chansons qui reviennent dans les films de Disney, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est de retour là-dedans. Il y a beaucoup de chansons là-dedans, quand même. Mais ça fait partie de ce qu'on veut, dans le fond. Dans un film d'Aladdin, Roi Lion, il y avait quand même beaucoup de chansons. Mm-hmm. Ça m'a quand même surpris parce qu'il y a des gens, des parents que j'ai entendu dire à la fin « Ouais, je me souvenais pas qu'il y avait autant de chansons dans Frozen. » parce que même dans Frozen 1, il y avait quand même des chansons pas mal. Ouais. Et il était un petit peu déçu de ça, peut-être.
Moi, c'est des choses que j'aime pas dans les films de Disney. Généralement, c'est les chansons. Je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par ça. Mais je pense plus tu écoutes le film jeune, plus t'aimes les chansons, mm-hmm. même plus tard.
Ouais,
c'est parce que quand t'es jeune, je pense que les chansons, c'est la seule partie que tu comprends du film. Parce qu'il n'y a rien à comprendre dans les chansons. Parce qu'on s'entend que
il y a des choses à comprendre
non,
dans les chansons.
Non, mais on s'entend que quand t'es très jeune, tu comprends pas les films. Là.
La chanson résume.
Bien avec, c'est ça.
Résume assez bien.
Je veux dire, on s'entend qu'un enfant de 3-4 ans ne réussit pas à suivre un film au complet, le développement, tout ça. Non, les chansons pour eux, c'est
une raison pour ça, on en parlera plus tard. C'est un peu le fait qu'ils regardent pas vraiment ce qui se passe. Mais ça, c'est
Puis oui, là, une chanson, ça vient attirer l'attention, tu sais, tout d'un coup.
Oui, la petite mélodie, comme autant le clan Panton pour déménager, bon, tu sais, ou... non, mais tu sais, je veux dire, une petite mélodie qui passe à télé, c'est sûr que ça peut aider à rester catchy, puis à donc aimer la série. Ça, c'est sûr. Moi, j'aime les comédies musicales, donc c'est sûr que j'aime les chansons, tu sais. Bon, c'est sûr que les gens vont dire c'est un peu... c'est pas crédible, les gens ils se mettent à chanter sorti nulle part, mais en même temps, être en robe de princesse, être sur un cheval ou à court,
puis il fait froid.
À un moment donné, je veux dire, c'est pas nécessairement le but d'être crédible, je pense, dans ce genre de film-là non plus.
Clairement pas. Mais toi, ça t'a pas dérangé qu'il y ait beaucoup de chansons?
Moi, j'aime les comédies musicales. Fait que j'ai trippé parce que c'est des gens qui écrivent des comédies musicales, c'est des interprètes de comédies musicales. Donc, moi, j'ai trippé, tu sais, c'est sûr. Fait que là-dessus, je pensais bien et je crois que les chansons, même s'il n'y a pas le plus gros hit autant que Let It Go, qui a été, tout le monde a entendu sur le gym, la chanson, il y a eu peut-être un moins gros hit, mais je trouve que généralement, il y a. C'est assez bon, c'est très très fort et même peut-être un peu meilleur que Frozen 1.
Fait qu'on veut vendre clairement l'album du film là, au niveau musical.
C'est pensé pour
vendre ça. Okay.
Donc ça c'est bon, c'est sûr. Et même dans. On va dans un autre niveau Parce que là, on savait, dans le Frozen 1er, le premier,
Frozen ça a l'air premier, vraiment... c'est le roi, ça.
Oui, dans Frozen 1, on s'attendait pas à ce qu'il y ait aussi un aussi grand succès que ça. T'sais, la chanson, en fait, a amené un plus grand succès au film que ce qu'on pensait. En fait.
Okay.
Autant si on regarde au moment où ils l'ont sorti, c'était à peu près en fin novembre aussi, mais ils l'ont sorti juste à un petit mauvais moment. Ils l'ont sorti pas à tout le monde en premier. Ils ont fait des petits... un peu comme quand tu sors un petit film. Un film que tu penses qui va moins bien fonctionner.
Ouais.
Pas un petit film, parce qu'il y a quand même un gros budget pour le premier, mais quand même.
Ouais.
Et finalement, ça a tellement bien marché que là ils se sont dit « Ah, là, on sait qu'il va y avoir du monde.
Ouais. »
Tu sais, peu importe le film qu'on fait, là, on sait qu'il va y avoir du monde dans les salles. Parce qu'il y a un gros branding derrière tout ça. Mm-hmm. Les gens attendent ce film-là. Donc, j'ai l'impression que là, ils ont dit « Ok, il va y avoir des jeunes. » Il va y avoir des gens qui étaient jeunes il y a 6 ans,
mm-hmm.
donc qui sont rendus peut-être à 12, 13, 14, 15. Il y a des parents qui vont accompagner les enfants, puis il faut que tout le monde aime ce film-là. Et tout le monde a des grosses attentes.
Ouais, puis personne n'a les mêmes intérêts. Donc, ouais.
Personne n'a les mêmes intérêts. Donc comment on fait? Et ça, c'est le fun, parce que dans des prestations musicales, des fois, ils font des il y a une prestation musicale qui est assez magique et qui fait plein de... C'est une power ballade et qui fait plein de références à du Queen, à des affaires, à des...
Ah ouais, okay.
Puis ça, il y a certains parents qui l'ont même pas vu. Pourtant, c'était pour eux, tu sais, qui étaient quand même Sam Gossel, Power Ballad. Ouais, mais c'était une parodie pour que tu rentres dedans, puis qu'il y avait plein de trucs qu'on peut voir dans ces vidéoclips-là de ces années-là, mm-hmm. plein de petits clins d'œil. Eux autres, ils ont fait genre, ouais, non, c'était un peu bizarre. J'ai entendu ça de certaines personnes dans la salle.
En sortant de la salle.
En okay. sortant de la salle. Puis je trouvais ça un petit peu triste parce que ça s'adressait à
c'est
eux.
C'est une référence. Si tu prends pas la référence, c'est sûr que ça n'a pas d'effet.
Ben, c'est ça, exactement.
Faut la comprendre.
Fait qu'il y avait quand même beaucoup de références pour les vieux, entre guillemets, les
moins jeunes.
Les moins jeunes, mettons. Oui. Je me considérais là-dedans, les vieux. Là.
Ah oui, donc, moi, j'étais toujours dans l'autre catégorie.
c'est gentil, Jim. Et, ouais. Mais je trouvais que des fois, un petit peu trop de... Je sens qu'on parle aux enfants, tu sais, comme, ne fais pas ça.
Ah oui, okay.
Là, on sentait des fois quelques moments où c'était comme, bon, là, clairement, on tente de faire passer une morale beaucoup trop intense parce qu'on sait qu'il va y avoir des jeunes dans la salle puis qu'on veut faire passer ouais. un point. Ça, on le sentait à certains moments. Sinon, outre ça, le scénario est un des points faibles du Frozen, le Frozen premier opus.
Le premier, oui.
Et Frozen premier, tout à fait, on va le rebaptiser comme ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était plus... un petit peu plus riche, un petit peu, le scénario. C'est encore pas la force de ce film-là. Oui, tout à fait.
Okay.
C'est pas la force de ce film-là, encore une fois. Mais c'est un petit peu plus riche. Ils s'en vont dans des endroits assez intenses au niveau des émotions.
Ah bon?
Et j'ai des jeunes qui comprenaient pas et qui pleuraient tellement qu'on va dans des émotions, là, tu sais. Hmm. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que on va dans des émotions fortes quand même pour un film de jeunes. C'est intéressant dans un certain sens, mais pour quelqu'un de 3-4 ans, ça peut être un petit peu rare à certains moments.
Peut-être un public un petit peu plus âgé que pour le premier.
Peut-être, à peine. Mais c'est
ça tombe
tellement
bien parce que
beau.
Ceux du premier, on s'y sent
ouais, ben
plus.
C'est ça.
Ouais.
Mais c'est tellement beau visuellement qu'ils vont quand même apprécier. Je veux dire, il va y avoir peut-être une couple de petites scènes qui vont être un petit peu plus comme « Oh my God, c'est intense au niveau des émotions », mais en même temps, il faut amener, faire face à ces émotions-là, Jim.
Hein? Ben, moi, j'ai envie de dire « c'est maintenant ou jamais ».
Ben, tout à fait. Hein?
Oui.
Donc ça, je trouve pas ça que c'est nécessairement négatif, mais bon, il y a un petit côté un petit peu plus vieux peut-être, où c'est le plus intéressant. Sinon, donc, il y a pas beaucoup de au niveau des c'est différent, les Frozen, tu sais, dans le premier, il n'y avait pas le méchant, c'était un petit peu différent, il n'y était pas de méchant clair autant que dans les autres Disney, princesse, okay. là, tu sais, films de princesse,
moins,
entre guillemets, là,
un petit peu moins
ou que vraiment,
dualité,
genre,
là,
ouais, une dualité vraiment flagrante, là, on est un petit peu moins, puis on est peut-être encore un peu moins là. Okay.
C'est une bonne nouvelle, ça.
Donc, c'est différent. Je trouve que c'est différent, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de truc-là. Donc, ce film-là, pour vrai, les chansons sont bonnes, donc si vous aimez les chansons, ça marche vraiment fort. C'est émouvant, tu te laisses aller. Si tu te laisses aller là-dedans, tu vas t'en laisser emporter par la magie de ce film-là.
Wow.
C'est assez drôle et on est capable de... Maintenant, ils ont compris la force de certains de leurs personnages. Il y a certains des personnages qui passaient assez rapidement et dans le film. Et là, ils ont compris la force de ces personnages-là. Et que, par exemple, Olaf, qui était là, qui était présent, mais...
Alias Marc.
Alias Marc, chumé Marc Labrecque.
Qui était, je pense qu'il était très populaire parce que, tu sais, dans les jouets, tout ça, il était beaucoup là.
Tout à fait, Olaf, c'était un des quand même, que les gens aimaient beaucoup. Et là, il est assez présent et très, très, très drôle. On mise beaucoup là-dessus. Le comic relief de Olaf est très, très là. Donc, justement, on connaît c'est quoi qui a bien fonctionné sur le premier, et on peut l'exploiter encore plus. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'au niveau de l'histoire, on pousse plus loin. Dans l'histoire, au début, dans le premier, c'est vraiment, bon, on y va, on raconte l'histoire, puis on s'en va. Là, on pousse plus loin de l'histoire, justement, comme j'ai dit dans le synopsis au début, pourquoi là, ces pouvoirs-là, chose qu'on n'abordait pas pantoute dans le premier film, c'est genre, elle a des pouvoirs, puis on ne sait pas pourquoi, puis à la limite, on se pose même pas la question. Là, on essaie vraiment de comprendre c'est quoi, et il y a même des créateurs qui ont dit, au final, c'est presque un grand film. Et c'est presque, c'est presque ça, dans le sens où, c'est drôle à m'amener, ils font un petit résumé de ce qui s'est passé dans le premier film, et c'est pas tant pour les gens qui l'auraient pas vu, parce qu'au début, j'ai fait, ah, c'est cool pour les gens qui l'auraient pas vu, il a mis un personnage qui fait juste raconter c'est quoi qui se passe dans le premier, et de façon drôle. Mais au final, non, c'est vraiment pour les gens qui l'ont déjà vu. Et donc, aller voir le premier avant, je pense que...
Ah bon?
Je pense...
Une nécessité.
Tu manques beaucoup de choses si tu vas pas voir le premier. Visuellement, c'est très, 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 très beau, et on pousse plus loin. Donc, c'est vraiment un bon film qu'il y a encore au niveau du scénario des problèmes, là. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a encore des problèmes au niveau du scénario.
Oui, puis on a tendance peut-être à tourner les courants un peu plus quand c'est des films qui s'adressent à un public plus jeune, parce qu'on se dit, bon, ils n'ont pas nécessairement un regard scénaristique aussi approfondi.
Peut-être.
Ils ont peut-être vu moins de films dans leur vie. Ils n'analysent pas vraiment. Ouais. C'est sûr qu'on est beaucoup moins critique aussi.
Et qu'on met peut-être plus de temps aussi sur le visuel. Le visuel est magnifique.
Ça doit coûter une fortune aussi.
Exactement.
C'est sûr que là, c'est pas les acteurs qui coûtent cher.
Les voix sont assez des grosses pointures, surtout qu'il faut chanter aussi, fait qu'il faut être capable d'amener la performance là. Donc, non, c'est un bon film. J'y donne un 8.5.
Wow.
C'est donc une bonne note, mais c'est sûr que tu vas pas. Il faut que tu te laisses entraîner par la magie.
Ouais,
va pas là avec un calepin en disant c'est-tu un film qui va être. Non, il y a des problèmes dans ce film-là. Ben oui, il y a des problèmes dans ce film-là.
De toute façon, je pense pas que les gens qui vont avec un calepin au cinéma vont aller voir ce film-là de toute manière.
Ben, donc, c'est ça.
De toute façon, on voit rien. C'est un calepin, ça sert absolument à rien.
Je t'en fais penser, comment tu fais pour écrire?
Oublier les écrans là, d'appareils électroniques, là, c'est interdit ça.
Oui, tout à fait. Donc, laissez-vous aller dans ce film-là et aller dans les émotions, parce que c'est ça. Ça nous transporte beaucoup plus, je pense, j'ai trouvé, dans les émotions que dans le premier. Donc, allez-y. C'est drôle. C'est beau visuellement. C'est rare que c'est des très, très beaux films visuellement. Mm-hmm. Pour vrai, là, c'est magnifique. Une belle trame sonore. C'est quand même un bon début pour un film.
Non, ça commence bien.
Donc, un 8.5 sur 10.
Et tu étais entouré d'enfants, donc j'espère que tu as bien profité de ton expérience.
C'est sûr
que ça t'a pas trop nuit à...
Ben, il y a quelques petites phrases que tu n'entends pas parce qu'il y a des plus jeunes qui pleurent mais bon, hein, ça fait partie de la game. Je pense que je vais me leur louer à mener pour
comprendre les mots que tu n'as pas compris.
Oui, exactement.
De toute façon, quand j'étais jeune, je me souviens, je voyais un film. Puis je pouvais le revoir 3 ou 4 fois, puis à chaque fois, je découvrais des nouvelles affaires. C'est juste parce que j'avais visiblement un déficit d'attention. Je faisais que je manquais des bouts parce que je faisais autre chose, mais on se souvient pas qu'on manque des bouts, tu sais, en tout cas.
C'est sûr qu'on se souvient pas des bouts qu'on se souvient pas, Jim.
Non, mais c'est ça, hein.
Bref, c'est généralement ce qui arrive.
Merci beaucoup, François.
Un plaisir.
Ben, vous êtes de retour à l'émission et c'est le moment de... En fait, durant cette demi-heure, on aura la chance d'entendre Mélina nous parler du film...
Charlie, c'est drôle de dame.
C'est dur, on mélange le français et l'anglais. Donc, on aura la chance de l'entendre parler de ça dans quelques minutes. Mais juste avant, le film dont le nom m'échappe parfois, Alice et le maire, c'est mon tour de vous en parler. Donc, ce film, une production franco-belge écrite et réalisée par Nicolas Parizé. Film qui n'est ni un drame ni une comédie, en fait. On dit que c'est une étude sociale et politique. Donc, on est dans l'inhabituel.
C'est-tu vrai ou c'est pas vrai?
Je te vois essayer de me rallonger ma critique. c'est tout à fait vrai.
C'est vrai?
Effectivement, une étude sociale et politique, ce n'est pas...
C'est donc de vraie
fiction. Non, c'est une fiction, mais qui ne suit pas un scénario traditionnel là, en trois actes et compagnie. Là. On est comme un peu, mais en tout cas. Donc, je vais arriver à tout ça, François. Je sais que tu meurs d'impatience de savoir tous ces détails. Mais en fait, pour vous dire que ce film met en vedette Fabrice Luchini, j'arrive jamais à le dire comme il faut, mais c'est pas grave, dont le nom n'est plus à faire pourtant, et qui est très, très prolifique en fait cette année. C'est son quatrième film de 2019, dont entre autres Le mystère d'Henri Pic, que j'avais vu, qui était quand même intéressant. Un autre film aussi qui sortait un peu du genre. Donc, également Anaïs Dumoustier, qui ne joue généralement que dans des bons films. On va voir si c'est le cas pour ce film. Mais juste avant, voici la bande-annonce.
Vous connaissez mon parcours?
Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon.
Ils ont payé le prix.
Le maire, il va bien?
Ouais.
Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour.
Non. Non. Oui.
Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez?
Alice Eman.
Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser.
Et c'est tout le sujet de ce film. Le but pour le maire est de penser. Le maire, oui, parce que Fabrice Luchini incarne Paul Terrano, qui est le maire de la ville de Lyon en France, qui je pense est en fait la deuxième plus grande ville après Paris. Je pense que c'est juste entre Marseille et Paris. Donc, le maire va développer une relation professionnelle avec une nouvelle employée, Alice, qui a enseigné la philosophie à l'étranger et qui va aider le maire à penser. Un maire qui est un peu fatigué, disons, mentalement, qui a fait plein de projets, qui a fait plein de choses, qui est un peu déconnecté, pas déconnecté, non, il est très connecté, mais qui est un peu, fatigué mentalement.
Intellectuellement,
c'est ça. Ouais. Qui a besoin d'un petit gain de vivacité mentale. Et ce film très intellectuel nous montre ce procédé. Et en fait, dans le film, on découvre justement tout ce qui est les rouages et les problématiques qui sont propres à la vie politique municipale, mais aussi aux guerres de pouvoir, à l'insatisfaction populaire, aux différents enjeux qu'on vit dans une mairie. Paul reprend... En fait, quand Paul reprend de la fougue, il devient une menace pour certains. De maire, donc. Il y a toute une... cette dynamique-là existe. Luchini est excellent, encore une fois, dans son rôle de vieux routier de la mairie. Honnêtement, je me suis vraiment bien amusé avec le film. Faut dire que je m'intéresse quand même un peu à la politique et ces choses-là. J'aime beaucoup les deux acteurs. Ça a aidé infiniment. Ce film-là est porté par ces deux acteurs-là. Les autres acteurs de soutien, c'est franchement très ordinaire. Donc, il n'y a pas de... c'est même pas... Ça vaut pas la peine d'en parler du tout.
Ah, mon
Dieu. C'est ces deux acteurs-là, puis les autres, je sais pas. Ils ont probablement fait une annonce dans le journal ou quelque chose pour les trouver. Donc,
c'est assez violent quand
mais,
même.
Mais comme ils sont pas importants, ça va.
On n'en parlera pas. Hein?
Ouais, c'est ça. Donc, autre point en fait qui rend le film un peu moins exportable, c'est que beaucoup de termes très français, des acronymes qu'on connaît pas vraiment ici, à moins d'avoir habité en France, des choses qui sont qui peuvent peut-être rendre la compréhension des détails municipaux un peu plus compliquée. Donc, sinon, on n'est pas du tout dans... On est plus proche d'un faux documentaire au niveau du sens du film que d'une fiction, même si c'est tout à fait fictif, dans le sens que...
C'est fictif?
Ben, c'est fictif, mais ressemble c'est... plus à un documentaire dans le sens où...
Ils ont essayé de faire un genre de documentaire en fiction?
Non, pas du tout. Rien à voir. Okay. T'as rien compris, François, en fait.
Mais c'est ça, mais c'est...
Va voir le film.
Oui, mais, c'est ça. En fait, non, c'est un peu confus, là.
Non, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une intrigue qui évolue au fil du récit. On n'a pas l'impression d'être dans un truc balisé comme un film de fiction traditionnel où on a vraiment un acte, un élément déclencheur, etc.
Ouais.
On n'est pas dans
On ressent moins le...
Ouais, on n'est pas... On ne sent pas le scénario, en fait.
Okay.
On suit ce qui se passe, puis on voit ça évoluer, on ne sait pas où ça va aller... Puis on sent pas qu'il y a quelque chose qui s'en vient parce qu'on est rendu à 30 minutes dans le film. On n'a pas cette impression-là.
Okay.
Ça, c'est quand même intéressant. C'est plein
c'est
de petits moments où il y a des revirements de situation, mais
c'est comme si on vivait une partie de la vie de quelqu'un.
Ouais, la vie de deux personnes, en fait.
Ben, de deux personnes. C'est ça.
Exactement. Deux personnes différentes, mais ça rend la chose très intéressante. Maintenant, dans son fondement, ce film-là est en fait une, je dirais que c'est une réflexion profonde sur des concepts de gauche et de droite.
C'est intéressant,
au niveau
ça.
Politique, oui. Beaucoup de conceptions, beaucoup pour le concept de progrès. Est-ce que c'est un concept vide ou est-ce que c'est un concept significatif? C'est quoi le progrès? C'est des notions qui sont vraiment intéressantes qu'on voit dans des échanges entre un vieux routier de la politique qui s'est toujours battu pour le progrès, pour la gauche, et l'autre qui arrive puis qui dit que philosophiquement, fondamentalement, le progrès, ça doit être relatif à quelque chose d'autre. Donc, donc tout ça est...
Une remise en question des idées, en fait.
Des idées établies, je trouve que pour ça, c'est vraiment bien. Beaucoup de réflexions sur, justement, la droite, la gauche, la viabilité des décisions, l'humanisme, le progrès. Bon, pour moi, ce film-là est un must pour n'importe qui se lance en politique, ne serait-ce que pour cette confrontation-là d'idées qui est vraiment bien. Si vous pouvez passer par-dessus les points un peu étranges là, dont j'ai fait mention, vous allez avoir beaucoup de plaisir à voir ce film-là. Moi, j'en ai eu beaucoup. Mais c'est un film d'intellectuel. On est très, très loin du divertissement de masse comme les films de Marvel, pour paraphraser Scorsese. Alors voilà, c'est un peu long, mais surtout inhabituel comme film, ce qui est une bonne chose à mon goût. Donc, je lui donne un 8 sur 10. Le
quand
film
même.
Alice et le maire, voilà, 8 sur 10. Hein, je vous avais dit que ça serait pas si long comme critique.
Effectivement.
Merci.
Merci, Jim.
C'est le moment où Mélina nous parle de Charlie et ses drôles de dames.
Oui.
Est-ce qu'il était très drôle, les dames de Charlie?
Ah, écoute ma critique et tu verras, tu sauras. Donc, en fait, Charlie et ses drôles de dames, donc, comme on disait un peu plus tôt, c'est une franchise, en fait. Ça a commencé avec une série à la télé en 1976. C'est une série qui a été vraiment très populaire. Ça a duré 5 ans. C'est vraiment là que la franchise a vraiment eu son succès. Donc, il y a eu 2 films ensuite qui ont été faits. Un en 2000, un en 2003. Moi, c'est ceux-là que j'ai connus. Donc, c'est-à-dire, c'est par ça que j'ai été initiée à la franchise Charlie et ses drôles de dames. Donc, ces films-là, c'était avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Et il y avait Bill Murray qui jouait le rôle de Bosley. Donc, c'est ça. Est-ce que vous les aviez vus, ces films-là?
J'avais vu des petits bouts, je pense, au primaire ou au secondaire. Je sais pas pourquoi ils nous avaient montré ça, mais en tout cas, oui.
Un remplaçant qui...
Ouais, c'est ça. Ouais, il pleuvait dehors, puis à midi, il nous avait passé quelque chose.
Je vais vous montrer des petits bouts de Charlie, c'est drôle de dame.
Ouais, non, c'est... Ouais, quelque chose genre...
C'est un drôle de remplaçant, ça?
Oui, non, je sais.
On les écoutait au complet.
Est-ce qu'il s'appelait Charlie?
Ah, non, non, non. Non, il s'appelle C'est drôle de dame.
Ça serait demandé, il était où, sinon?
Bon. Donc, c'est voilà. Un peu ça. Ben, dans le fond, je vais vous expliquer un peu le concept. En fait, ça revient pas mal tout le temps à ça. C'est que les anges de Charlie, c'est 3 femmes qui vont travailler comme détectives privées pour un milliardaire qui s'appelle Charlie, qu'on ne verra jamais.
C'est
donc,
ça le concept.
C'est ça le concept, en fait. Mais il envoie son assistant Bosley, donc pour aider les filles quand ils ont des missions, des choses comme ça. Et maintenant, dans la version qu'on a aujourd'hui, en 2019, il n'y a pas juste un trio d'anges. Maintenant, ils sont rendus avec des trios d'anges partout sur la planète. Et donc, Bosley...
C'est rendu une franchise, là, de, littéralement.
Oui, oui, ben c'est ça. C'est... Hein, ils ont
la franchise.
Les sous-traitants, là, rendus là.
Oui.
Ben, ils ont d'autres clients, j'espère. C'est un peu comme le S.H.I.E.L.D. dans Marvel, ou ces choses-là.
Ah bon,
ils règlent des problèmes, des choses comme ça. Donc, dans le film de 2019 qu'on a sorti maintenant, il y a Kristen Stewart, donc qu'on a connue, entre autres, pour son rôle dans Twilight, qui jouait la fille, Bella,
oui.
Dans Twilight. Et elle a fait d'autres films après, notamment Sur la route, des choses comme ça. Il y a Naomi Scott et Ella Balinska. Et donc, comme je le disais tantôt, c'est réalisé par Elizabeth Banks, donc qui est réalisatrice, scénariste, productrice et actrice dans le film.
Quand même.
Quand même. Donc,
est-ce qu'elle a un gros rôle ou juste un petit rôle comme en disant comme un, est-ce que c'est un caméo seulement?
Non, elle
ou,
a quand même, elle a quand même un bon rôle.
Ok, ouais.
Ouais, okay, ouais. Mais pas un gros rôle, mais elle a quand même un bon rôle. Hmm. Fait qu'elle est quand même présente là. Tu vois qu'elle est vraiment. Elle,
c'est un personnage de soutien.
Ouais, assez important.
Notable.
Puis, puis c'est ça. Donc on va aller écouter la bande-annonce.
Bien sûr.
Bienvenue à l'agence Townsend. Nous sommes là parce que les forces de l'ordre traditionnelles ne suffisent plus.
I don't like that, boy.
Alors, vous êtes des espionnes? Jane est une ancienne du MI6.
Oh non.
Qu'as-tu fait à Sven?
J'ai comprimé sa carotide et désoxygéné son tronc cérébral.
Mais ça doit faire super mal.
Ne t'en fais pas, il va se réveiller.
Ça reste à voir.
Sabina est en charge sur le terrain. Je connais ces trucs-là. Trouvons l'arme avant que tous les méchants s'en servent comme un jouet. Montrez-lui le placard, équipez-la. On aura besoin de perruques, de jouets,
explosifs
et de vêtements. Ah, encore au premier placard.
Eh bien, donc Charlie et ses drôles de dames.
Oui, version 2019. Donc dans ce film-là, on n'a pas un trio d'anges, on a plutôt un duo d'anges qui est composé de Kristen Stewart et de Ella Balinska, qu'on a entendu dans la bande-annonce, qui est une ancienne agente du MI6. Et donc voilà, elles viennent à la rescousse un peu de Elena, qui est jouée par Naomi Scott, qui est une brillante ingénieure informatique, qui les appelle pour, en fait, elle dénonce une faille de sécurité dans une technologie qu'elle a aidé à construire. Donc là, mm-hmm. elle les appelle, elle va dire, il y a tel problème dans le truc. Et donc là, les filles vont aller l'aider, Bosley va l'aider aussi. Donc, et bon, ben, éventuellement, on peut en déduire qu'elle fait quand même équipe avec eux pour ça, j'en dirais pas plus. Mais donc, voilà.
Ooh.
Donc, ils vont mettre leur talent à exécution, ils vont régler peut-être ou pas le problème. Donc, c'est un peu ce film.
Sûrement qu'ils régleront pas.
Ça reste que c'est une comédie d'espionnage. Mm-hmm. C'est pas un film d'action.
Ça se prend pas au sérieux.
Non, c'est ça. Prend pas au
sérieux. On est plus dans OSS 117 que dans James Bond. Là.
Mettons, genre, oui, définitivement. C'est drôle. Ce film-là, quand même, tente d'être drôle.
J'aime bien le « tente d'être drôle ».
Mais c'est qu'on rentre dans un deuxième point, en fait. C'est que le comic relief du film est vraiment le personnage qui est joué par Kristen Stewart. Je sais pas si vous la replacez un peu, mais elle a vraiment pas joué. Je veux dire, dans Twilight, la blague qui revenait souvent sur Internet, c'était qu'elle avait juste une expression tout le long du film qui était une expression un peu apathique. Donc,
genre de dégoût un peu?
Ben, elle avait juste pas vraiment d'expression. Elle était juste un peu comme perturbée tout le temps. Mais tu sais, quand t'es perturbée tout le temps, ben des fois, t'as pas vraiment... Ouais. Fait que... Mais là, ils la mettent dans un rôle qui est censé vraiment être le comic relief, le côté drôle du film, amener des blagues, tout ça. Donc on la voit dans un personnage qui est vraiment comme différent de ce à quoi on peut-être là, associé dans notre tête. Donc, c'est un peu bizarre. J'ai vraiment pas été convaincue par sa performance là-dedans, dans le sens que pour moi, ça le faisait pas. Donc, c'est un peu là que le film était peut-être un peu moins drôle pour moi parce que okay. Ça me faisait pas rire pour ça. Sinon, les autres personnages, je vous dirais qu'ils sont bons dans le film. Là. C'est pas un grand film non plus, mais les performances sont à la hauteur quand même.
De quelque chose qui est pas tant bon.
Mais dans le sens que les performances, ils sont bonnes. Là. Ils sont pas. Je crois à l'interprétation. Je crois aux autres personnages.
Okay, okay, okay. Oh, ouais.
Celui de Kristen Stewart, j'y crois pas vraiment. Fait que c'est un peu ça, moi, okay, qui me fait
c'est elle qui
sortir.
Détourne avec le reste, en fait.
Puis, et ce qui est quand même plate, ben, du moins, c'est que c'est elle qu'on a mis vraiment. C'était comme Kristen Stewart et les deux filles reprennent un peu.
On misait beaucoup là-dessus, j'imagine.
Ouais, vraiment. Fait que, du moins, peut-être qu'il y a d'autres personnes. Peut-être que c'est juste moi aussi qui n'ai pas embarqué dans son interprétation. Ça peut être quand même aussi personnel à chacun. Mais donc, pour moi, ça l'a moins fait. Ça fait en sorte que je décrochais parfois du film.
Est-ce que tu avais beaucoup aimé aussi les anciens?
J'ai beaucoup aimé les anciens. Cela étant dit, en 2000, j'avais 8 ans, donc je me souviens pas du film. J'essayais de repenser à l'ancien film.
Bon, ouais, c'était la même affaire.
Oui, puis je me disais, est-ce que c'était autant une comédie, ouais, tu sais, ou c'était plus film d'action? Donc, j'étais pas vraiment sûre. Puis en y repensant, je me suis souvenue, dans le fond, que je me souvenais pas de grand-chose, tu sais. Dans le sens que je me souviens pas vraiment
du film.
C'est
un beau souvenir, ça.
Mais je sais que j'avais vraiment aimé ça. Puis une chose qui me fascinait avec ce film-là, c'est qu'il y avait une rousse qui était Drew Barrymore. Il y avait une blonde qui était Cameron Diaz,
oui, oui,
c'est ça.
Oui.
Et t'avais la Lucy Liu, donc qui avait les cheveux noirs, donc il y avait vraiment les trois couleurs de cheveux. Donc c'est ce que je me souviens. Okay. du film que j'ai vu quand j'avais 8 ans. Donc,
la couleur des cheveux.
La couleur des cheveux que les trois filles avaient.
Ça a marqué quand même. Hein?
Non, mais ça montre à quel point, justement, quand on est plus jeune, on n'a pas la même vision de ce qu'on voit. Oui.
Tout à fait.
Oui,
ben, on retient des choses. C'est pour ça que je dis que les enfants dans Frozen ne remarquent pas vraiment le scénario. Je pense que c'était un peu ça pour moi. J'ai pas, du moins, le scénario ne m'a pas marqué à 8 ans. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les trois filles avaient les trois des cheveux de couleurs différentes.
Des fois, c'est des petites choses hein, qui nous accrochent quand on est jeune.
Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas si c'est quand on est jeune ou Mélina en général. Mélina aussi, elle a des petites choses qui m'accrochent
des fois. Des fois, là, des petites particularités. Oui. Mais sinon, fait que juste. Puis celui de 2003, bon, rendu là, j'ai rendu à 11 ans. Je me souviens quand même d'avoir un souvenir positif de la série. Donc, pour moi, c'est associé à un bon souvenir. Donc, j'ai dû aimer ça à l'époque. Maintenant, pour aujourd'hui, je pense que c'est un film qui va tomber rapidement dans l'oubli. On a essayé de faire revivre cette série-là qui, dans le fond, avait peut-être pas tant besoin de se faire revivre. Puis là, la table est vraiment mise pour une suite et pour d'autres. Donc on...
Mais avec le peu de succès que le film a eu, c'est ben probablement c'est ça, pas pour arriver.
Je penserais pas, mais on peut quand même être surpris. Peut-être que, comme François dit, le film va peut-être se rattraper dans les prochaines semaines. Il y a un film, notamment, qui avait fait ça l'année dernière, dont on misait vraiment sur le bouche-à-oreille pour la popularité du film. Je pense que c'était le film Green Book, d'ailleurs. Gagné
la façon dont tu parles de ce film-là, c'est
non,
pas
mais
Green
c'est
Book.
Ça. C'est... Non, définitivement.
C'est Green Book, quand t'es allé le voir, t'es revenu et t'étais émerveillé.
Mais
là,
tu sais, c'est un divertissement léger. Oui. Moi, je pense qu'il faut y aller pour ça. Il faut y aller pour, bon, définitivement, si vous avez envie d'y aller parce que vous avez aimé la série originale un peu, vous pouvez y aller. Ayez pas de très grandes attentes, là, on va se le dire tout de suite. Donc, peut-être qu'en diminuant les attentes, généralement, on a une meilleure appréciation du film.
Oui, en diminuant les attentes, on y va pas aussi.
Non, mais c'est ça. Si t'as aucun intérêt.
Définitivement.
Intérêt, vas-y pas, ça vaut pas la peine, c'est pas un grand film et tu ne vas rien manquer en n'allant pas voir ce film-là. Maintenant, pour ceux qui voudraient absolument, allez-y. Je veux dire, c'est pas à mourir d'ennui non plus. Faut que je lui donne une note.
Ouais, c'est ça.
Ouais, hein, ouais, c'est quand le même. Concept.
C'est ça le concept. On va s'appeler ciné-note au lieu de ciné-brunch maintenant. Parce que le concept, c'est qu'on donne des notes.
Wow. On est trop contentieux de trancher sur la question.
Oui, je pense que ça va passer.
Mais oui, donc ta note.
Donc ma note, c'est 5.5 sur 10.
Oh, c'est.
Donc, ben, 5.5, mettons qu'on dit 6, 6 ça passe là, selon certaines échelles de notation, ouais. 60%.
Donc, en bas de 7, j'y vais pas. Mais en tout cas, mais c'est correct. Oui.
Mais en bas de 7, tu y vas pas?
Non.
Ok, bon, c'est pour ça que tu donnes tout le temps 7 au film.
Ben, c'est rare, je descends en bas de 7, mais quand je descends en bas de 7, je regrette d'être allé. Ah, mon flair m'a trompé dans ce moment-là. Mais ok, donc quand même un 6 sur 10. Bah, ça veut dire que le film il passe, comme tu
le
dis.
Film,
là.
C'est ça, le c'est film il passe. Mais...
Sauf que, bon, il y a du travail.
On va pas s'en souvenir, là, puis définitivement, ce sera pas sur ma liste des meilleurs films de 2019.
Oh, spoiler alert!
Oui, c'est ça.
On s'y attendait pas. Bon, ben super. Ben écoute, merci Mélina, c'est fort agréable.
Ben, merci.
Retour à l'émission, donc Cinébrunch. Oui, sur cette sonorité 8 bits.
Oui, hein?
Oui, ben c'est ça, on s'est dit qu'on a un peu de temps, on va pouvoir parler de différents sujets. Et moi, le film, la critique de Frozen que François a faite tout à l'heure.
Ça nous a inspiré.
Ça nous a inspiré. Oui. Une belle réflexion. Et sur justement, c'est quoi de visiter un. D'aller voir un film selon ton âge et c'est quoi d'aller voir un film quand c'est pas ton âge qui est la cible.
Tout ça,
peut-être qu'on pourrait commencer par justement parler du premier film qu'on a vu au cinéma, en fait, parce que je pense qu'on n'a jamais abordé ce sujet-là.
Non. Moi, je sais pas si c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Faudrait que je valide l'information avec mes parents.
Ouais. C'est dur à savoir. Hein?
Oui, mais le premier film que je me souviens d'avoir vu au cinéma, c'est Titanic en 1997. Donc, j'avais 5 ans, puis l'image, le souvenir que j'ai dans ma tête, c'est d'être retournée vers le projecteur, donc de faire dos à l'écran et de regarder la lumière qui sort du projecteur, qui envoie les images. Puis on voit un peu comme, vous savez, quand on regarde ça, on voit comme le film à l'envers, là, dans l'écran du projecteur. Ouais, ouais. Fait que je me souviens de... de ce que ça peut de regarder le film. Je sais pas si. Ouais, ah, par, mais je sais pas si. C'est
ah, fait que pour toi, le Titanic, il est encore, encore à flot, là, dans le fond. Tu l'as vu de l'autre bord. Ouais, c'est ça, comme l'inverse, fait qu'il coulait pas, là, dans le fond.
Je pense pas que j'ai compris grand chose au film. Je pense pas que je l'ai apprécié.
Ben, c'était pas non plus un public cible.
Non, clairement pas, là.
Mais je veux dire, puis c'était peut-être pas le premier film non plus que j'allais, mais puis peut-être ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est de réaliser que l'image sortait de là et qu'elle était inversée, parce que du moins, c'est ça que je me souviens. Voilà, c'est ça mon expérience.
Intéressant. Et toi, François, c'est quoi ton premier film?
J'ai aucun souvenir.
Tu te souviens pas?
Non, j'ai pas eu de certificat.
L'année dernière.
Le plus loin que tu te souviens d'avoir vu, ce serait lequel?
C'est une très bonne question. J'ai pas beaucoup de souvenirs.
Je te laisse y penser, je vais parler du mien. Donc, moi non plus, je me souviens pas de mon premier film que j'ai vu au cinéma. Sauf que je me souviens du premier film d'adulte que j'ai vu genre 7 ans, un truc comme ça, je suis pas sûr exactement, parce que j'ai vu des films pour enfants au cinéma à l'époque, mais c'est Jurassic Park, le premier film que j'ai vu au cinéma.
Ah ouais.
Et ça, je me souviens que j'avais eu extrêmement peur. Je me souviens surtout que c'était la première fois que j'allais au cinéma avec une amie, ma mère aussi, là. Ben, et une amie. Je suis pas mal certain que ce film-là, s'il sortait aujourd'hui, on pourrait pas aller voir ça en bas de 12 ans.
J'ai même pas pris de chance, je peux encore aller le voir.
T'es pas encore allé le voir?
Non, en fait.
C'est ça, moi je me suis peut-être, je suis encore trop jeune, mais...
Vous décevez fortement. Mais non, puis je me suis dit que
c'était... sur ma to-do list.
Et j'étais pas le public cible non plus
film-là. Non.
Mais,
clairement pas.
Faut pas oublier que c'est une autre époque, et quand on parlait de dinosaures avant Jurassic Park, les dinosaures, c'était généralement des trucs enfantins.
Oui, mais ben comme la fantastique. C'est ça, il y avait un film qu'on écoutait, là, quand, un film de Disney quand j'étais jeune avec des dinosaures.
Oui, ben comment ça s'appelle, le petit pied?
Oui, exactement.
Fait qu'on était dans des trucs comme ça. Fait que là, d'arriver avec Jurassic Park, je suis pas mal certain que ça a pris du monde de court. Parce que là, Spielberg est arrivé et il nous a envoyé un truc complètement inattendu.
Ouais.
Tu penses à ton film?
Non, mais en fait, moi, je sais qu'on n'allait pas nécessairement souvent au cinéma parce que je le regardais souvent sur VHS. On avait des tonnes de VHS. Fait que peut-être que aussi, j'allais moins voir des films au cinéma. Je sais qu'évidemment avec les Harry Potter, mais j'étais rendu un peu plus vieux. Je suis pas certain que mon plus loin souvenir présentement, c'est les Harry Potter, mais pas certain qu'il y en ait.
Espion en
herbe
peut-être.
Non, je l'ai vu il y a comme 5 ans, Espion en herbe, sur un DVD qui donnait gratuitement dans des céréales. ma vie est un mensonge.
Mais tu manges beaucoup de céréales.
C'est sûr que je finis par trouver des DVD dans des céréales, c'est bien moi.
Il permet de conduire aussi des fois, semble-t-il.
Je vais continuer à creuser, je pense, mais je l'ai pas encore trouvé, mais c'est sûr que Harry Potter, ça a été vraiment une saga aussi qu'on a suivi, puis qu'on allait au cinéma,
je me souviens que je ratais l'école la journée que ça sortait. La première fois qu'il est sorti, j'étais en quatrième année du primaire, puis ma mère, moi et ma meilleure amie Elsa, on voulait vraiment aller voir le film l'après-midi même, donc on avait demandé à nos mères, puis on avait callé malade ou je sais pas quoi à l'école, puis je me souviens qu'on est allé dans l'après-midi callé
malade.
Si il me restait trois jours de maladie en banque. Je sens que quelqu'un va être en punition. On en apprend les choses. Il y a beaucoup de mensonges qui tournent autour des films aussi.
Ah, mais ça me fait penser à un autre. En fait, moi, c'est l'histoire de quand j'ai pas vu Star Wars épisode 3 quand j'avais 12 ans.
Ça a l'air d'une bonne anecdote.
C'est une très bonne anecdote. Moi...
Te souviens-tu souvent des films que tu vas pas voir, François?
Oui, c'est sûr que je me souviens le plus.
Celle-là est excellente. En fait, on avait 13 ans, moi et mon cousin, et on demande à notre oncle de nous amener au cinéma pour voir Star Wars épisode 3. Mais là, on décide, en fait, je sais pas à quel moment on décide ça, qu'on va pas au cinéma puis qu'on va comme faire comme juste pas aller au cinéma, comme raconter un mensonge. Je sais, quand t'as 13 ans, des fois c'est un peu bizarre dans ta tête.
Ah, fait que vous aviez dit on va au cinéma, mais finalement
on n'est pas allé au cinéma.
On est allé au dépanneur.
On est allé s'asseoir au métro Mont-Royal, il y avait des chaises géantes, et là on a passé les 2 heures que le film durait. Mon cousin il l'avait déjà vu, donc il m'a raconté le film pour qu'on puisse faire semblant d'avoir vraiment vu le film.
Cette histoire est vraiment incroyable.
Fait qu'on est revenu à l'heure, puis je donnais vraiment beaucoup de détails, hein. Peut-être que mon oncle l'a même trouvé ça louche.
C'est ça, c'est louche. J'ai pas besoin de me raconter à 52 minutes précis.
C'est ça. Fait que c'est l'histoire du premier film que j'ai utilisé comme mensonge.
Fait que ça, c'est quand on va voir des films quand on est jeune, hein, comment on pense bizarrement, quand on y va pas aussi. Maintenant, c'est ça. François, t'es allé voir un film qui s'adressait à un public beaucoup plus jeune que toi.
Ce qui paraît.
Ça nous est tous arrivé des fois parce qu'on fait des critiques de films. Ça nous arrive d'aller voir des films qu'on n'a pas le choix de critiquer, mais dont on n'est pas le public cible. Je pense qu'on est toujours... En tout cas, moi, personnellement, j'arrive à faire un peu la part des choses puis à être objectif.
Oui, tout à fait. Des fois, tu te rends compte, tu te dis, cette scène-là est clairement pas pour moi ou ce film-là en général, des fois. Mais il faut que tu essaies de dire, dire, est-ce que c'est de la qualité quand même? Est-ce que ça peut être drôle?
Est-ce que ça peut être drôle?
Ça peut être divertissant? Au final, c'est un divertissement. Fait que des fois, oui, le scénario peut être moins bon, mm-hmm. mais est-ce que tu peux passer un bon moment? Ouais.
Ça dépend aussi à quel point ton enfant intérieur est proche. Exactement. Le mien, il sort vraiment facilement. Fait que c'est pas compliqué.
Ouais, j'avoue que le mien est un peu entre vous deux. Mais,
je l'avais pas toi encore
vu. Il est là.
C'est lui. Ça s'appelle Martin Gauthier. Donc, en fait, c'est ça. Moi, ce que je voudrais. Ce que je voudrais juste dire en concluant, c'est que parfois, confidence, quand j'ai à voir des films justement qui s'adressent à un public plus jeune, je vais aller le voir à des heures vraiment, des heures de très faible écoute. Parce que, ou très tard, tu vois.
Ouais. Parce que Jim n'aime pas les enfants.
Non, c'est pas que j'aime pas les enfants, simplement, j'ai beaucoup de misère à me concentrer. Moi, quand je suis dans un film ou un spectacle, j'aime quand c'est silence complet, j'aime vraiment être focus sur ce qui se passe.
Mais il y a des types de films aussi, des fois, où ça apporte plus à être moins focus puis avoir plus une folie, tu sais, des fois. Puis
peut-être.
Des fois, des films pour enfants, entre guillemets, c'est peut-être souvent ce genre de film-là aussi.
Moi, c'est drôle, je trouve que souvent, c'est des films qui ont plein de subtilité, qui ont plein de gags à plusieurs degrés, puis j'ai envie de toutes les avoir.
Ouais. Puis... Mais des fois, ça te met dans le mood, en fait. Ça t'aide à retirer ton cœur d'enfant, à être capable de retrouver ton cœur d'enfant quand il y a des enfants qui rient à côté de toi, ou dans la salle.
Qui lancent du popcorn ou qui
ça te permet de
mais
te
au moins, généralement, les enfants, ils sont pas sur leur téléphone cellulaire. Faut leur donner ce point-là quand même.
C'est un des avantages, pour l'instant. Donc, on s'en reparle dans 5 ans. Voilà, c'est tout pour Cinébrunch cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, rediffusion le mardi midi, ou sur notre site web cinébrunch.com, ou sur votre téléphone intelligent. À la semaine prochaine, tout le monde!
Bonne semaine!
Bonne semaine!